sœurs et frères, pour terminer cette semaine qui a été consacrée au thème de la résistance, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce mot de résister en tant qu'il pourrait être, en tant qu'il pourrait bien être, un terme tout à fait caractéristique pour définir, pour caractériser la vie chrétienne. Comme le montre avec une richesse de vocabulaire considérable ce texte des Éphésiens, la vie chrétienne est un combat. Et il s'agit de tenir bon. D'ailleurs, le terme de tenir bon qui a été traduit par rester debout, tenir debout, dans la traduction de la Tob, apparaît à plusieurs reprises dans ce texte. Pour ceux qui seraient peut-être un peu choqués par cet aspect militaire, n'est-ce pas, du texte des Éphésiens, je préciserai aussitôt que ce combat est un combat sans agressivité. Comme vous l'avez remarqué sans doute, les armes qui sont évoquées sont des armes défensives. L'armure, la cuirasse, le bouclier, le casque, ce ne sont pas des armes offensives. Et d'ailleurs, la seule arme offensive, le glaive, eh bien, ou l'épée, c'est le glaive de la parole de Dieu, qui n'est pas une arme pour tuer. L'enjeu de la vie chrétienne, c'est précisément d'être porteur de cette arme de la parole de Dieu, ou si vous voulez, d'être témoin de cette parole, et de l'être hardiment. Le texte, à la fin, en parlant de l'apôtre Paul, emploie à deux reprises ce terme qui est traduit par « hardiment ». Je cite le texte grec parce que le mot grec, parce que c'est le mot qui m'est venu immédiatement à l'esprit lorsque on m'a parlé de cette semaine sur le thème de la résistance. Et ce terme grec, c'est le terme de « paresia », que on peut traduire par « hardiesse », que de nombreuses traductions également dans la Tob, notamment par exemple dans le livre des Actes, où il s'agit aussi d'annoncer la parole de Dieu avec « paresia », avec « assurance », avec « franchise ». Et ce mot de « paresia » est un mot qui a une grande importance dans, on pourrait dire, la conception grecque de la vérité. Un philosophe qui s'appelle Michel Foucault a beaucoup réfléchi sur ce terme de paresia et les développements qu'il lui a consacrés sont publiés dans un livre dont le titre est « Le courage de la vérité ». Et il semble que cette traduction est magnifique, n'est-ce pas, pour dire aussi ce que veut dire ce terme dans le Nouveau Testament. Le courage de la vérité. Courage, qui signifie que dire la vérité, témoigner de la vérité, c'est en témoigner face à un adversaire. Et le texte des Éphésiens nomme ses adversaires. Les autorités, les pouvoirs, les puissances. Ces termes, ce sont des termes qui désignent des réalités mythologiques et que nous avons peut-être de la peine à comprendre, nous qui ne vivons plus dans un univers peuplé, n'est-ce pas, d'esprit, de puissance. Et donc, nous avons de la peine à comprendre ce qu'entend l'auteur de cet épître. Mais ces termes, je crois, révèlent la véritable dimension du combat de la vie chrétienne. Comme le précise cet épître, ce combat n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Non pas contre des êtres humains concrets, mais contre des réalités qui, en quelque sorte, expriment une prétention à la divinité. Elles prétendent, dans notre monde, jouer un rôle divin, c'est-à-dire imposer leurs lois, dominer les êtres humains. Des réalités qui ont leurs propres lois et qui ont le pouvoir de soumettre les hommes à cette loi. En d'autres termes, pour employer un terme plus commun, que vous connaissez peut-être davantage, ce sont des réalités qui ont le pouvoir de susciter, d'entraîner les hommes à l'idolâtrie. Et ainsi, le combat des chrétiens, le combat de la vie chrétienne, tel que l'entend l'Épître aux Éphésiens, se situe exactement là où se situe le combat de toute la Bible. Parce que le combat qui est au cœur de toute la Bible, c'est un combat pour la vérité de Dieu contre les idoles. Un combat pour le vrai Dieu. Et ce combat auquel la Bible nous invite contre les idoles n'a pas sa raison dans le fait que les idoles offenseraient Dieu ou que les idoles seraient fausses. Mais la raison de ce combat, c'est que les idoles détruisent la création, déshumanisent l'être humain, que ce sont en vérité des puissances de mort. Ces puissances sont nombreuses. Ces idolâtries sont nombreuses et changeantes. On peut parler de l'idolâtrie de la race, de l'idolâtrie du sexe, de l'idolâtrie du pouvoir politique. Et je prendrai un exemple pour faire comprendre la dimension de ce combat. Je prendrai l'exemple de l'argent. Comme vous le savez, Jésus désigne l'argent par le terme de mammon, c'est-à-dire comme une personnification de l'argent, qui indique que l'argent est une puissance. Et comme Jésus le dit, nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. En d'autres termes, Dieu et Mammon sont comme deux seigneuries qui veulent régner sur l'être humain. Et ces seigneuries s'affrontent, elles sont incompatibles. En d'autres termes, la logique du règne de Dieu et la logique de l'argent sont en complète opposition. On ne peut pas les concilier, c'est l'une ou l'autre. Et cela veut dire précisément que l'argent n'est pas simplement une réalité neutre dont on pourrait faire un bon usage ou un mauvais usage. L'argent n'est pas seulement un moyen commode pour faciliter les échanges. Il est une puissance qui impose sa loi et qui domine les esprits et les cœurs. C'est une puissance à laquelle tous nous sommes confrontés, parce que tous, la question nous est posée de savoir comment nous nous situons par rapport à la puissance de l'argent. Quelle est la place que nous lui donnons dans notre vie? Jusqu'à quel point nous laissons l'argent régner sur nous et nous imposer une manière de penser et une manière d'agir? Je ferai seulement deux petites remarques. La première, c'est que, pour tous, l'expérience de l'argent, et je dirais, dès qu'on est enfant, l'expérience de l'argent, c'est l'expérience de l'inégalité. Or, c'est la puissance de l'argent qui est créatrice de cette inégalité. C'est la puissance de l'argent qui introduit et qui agit, qui produit la différence entre les riches et les pauvres. Et je n'évoque pas tout ce que la Bible peut dire sur les riches et les pauvres. Et puis, la deuxième remarque, simplement pour parler de ce règne de l'argent, la deuxième remarque, c'est que l'argent transforme toute chose en une chose que l'on peut acheter. N'est-ce pas ? On parle aujourd'hui de la marchandisation de toute chose. Et vous voyez comment l'argent, le fait que l'argent transforme tout en marchandise, en quelque chose que l'on peut acheter, constitue une pression considérable sur ceux qui ne peuvent pas résister, surtout ceux qui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, sont obligés d'accepter n'importe quel travail, à n'importe quelle condition. Ceux qui subissent cette pression pour vendre leurs enfants ou vendre un organe qu'ils possèdent en double. La pression que subissent certaines femmes pour mettre leur ventre en location et opérer une gestation pour autrui. Pensez, pour résumer simplement, à l'universalité du phénomène de l'esclavage. Ou pensez, plus concrètement, à quelqu'un qui est riche et qui, au fond, ne peut jamais être vraiment sûr si l'amitié qu'on lui voue ou l'amour qu'on lui voue est une amitié véritable ou un amour véritable et non pas une amitié ou un amour intéressé. Nous connaissons tous la puissance de désorganisation, de division de l'argent, de la richesse dans les familles. La puissance de division de l'argent. Et puissance de division, je vous rappelle que dans la Bible, le mot de diable, le diable, le diabolos, ça vient précisément, c'est un mot qui signifie la puissance de la division. Or, le plus grave, c'est que la puissance de l'argent nous fait penser d'une manière conforme à l'esprit de l'argent, nous fait penser au fond que tout peut être acheté, donc tout en même temps est quelque chose qui est gagné. Et cela nous fait oublier la dimension fondamentale de la réalité, à savoir que tout nous est donné, que l'essentiel nous est donné. Ce n'est pas avec l'argent qu'on peut l'obtenir. Le premier article de la confession de foi, c'est de dire que Dieu est le Créateur. Dieu a créé toute chose. Or cela, dire que Dieu est le Créateur, c'est pas simplement dire, confesser le fait que Dieu a fait le monde. Mais dire que Dieu est le Créateur, c'est reconnaître que Dieu nous a donné la vie, qu'il nous a donné à nous-mêmes, et qu'il nous donne libéralement toutes les richesses de la nature. Et que par là même, il nous invite à vivre dans l'esprit de ce don, non pas dans l'esprit de l'acquisition, mais dans l'esprit de la reconnaissance pour ce qui est donné. Et c'est seulement du fait de vivre dans l'esprit de ce don que notre esprit peut être tourné vers la louange et vers le partage. Parce que c'est ainsi que nous reconnaissons quelle est la logique du règne de Dieu. La logique du règne de Dieu, ce n'est pas « enrichissez-vous », mais c'est « vous avez reçu généreusement, donné généreusement ». Voyez donc que la logique du texte d'Éphésiens nous engage dans un combat pour la parole de Dieu. Et les armes de ce combat, telles que les nomme le texte de la lettre, ce sont la vérité, la justice et la paix. Je vous rappelle seulement la béatitude de Jésus dans le sermon sur la montagne. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est notre condition à tous. Fils ou fille de Dieu, c'est notre condition de baptiser. Le baptême marque notre adoption par Dieu, comme enfant de Dieu. Et la condition de fils ou de fille, c'est précisément d'être envoyé comme représentant, comme ambassadeur de Dieu, de le représenter dans le monde, et donc de combattre son combat, de combattre pour sa cause. Or, la cause de Dieu, c'est précisément la cause de la vérité, de la justice et de la paix. Je terminerai sur ce terme de fils ou de fille, parce qu'il constitue en quelque sorte, je dirais, le secret de cette parésia, de cette assurance, de ce courage de la vérité. Parce que si nous sommes fils et filles, cela signifie que nous sommes libres. Dieu nous a adoptés, Dieu nous a acceptés, nous sommes de la famille de Dieu. Et cela signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'être retenus par la culpabilité ou par le souci de la pression des préjugés, de la pression du conformisme social. Nous sommes libres pour être des témoins de la vérité et de la justice, libres pour agir dans le sens de la réconciliation partout où nous pouvons. Amen.